Europe 1. Sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre. Bonjour Mathieu.
Mais bonjour. Dites-moi, il y a une drôle d'odeur dans ce studio.
Bonjour à tous. Oui Stéphane, pour l'odeur c'est normal, c'est un numéro un peu particulier aujourd'hui d'Historiquement Vôtre. Alors, on va pas se contenter de dérouler l'histoire, exceptionnellement aujourd'hui, on va aussi la rouler. Rapport à notre thème du jour Stéphane.
Ah oui c'est vrai, aujourd'hui on réunit des restas en Jamaïque. À commencer par le plus célèbre d'entre eux pour qui la Jamaïque, mais aussi pour le monde entier, s'est levé, le roi du reggae et des rastas, Bob Marley, dont on célèbre aujourd'hui même la disparition. Puis lui, il était carrément considéré comme un dieu vivant en Jamaïque. Le dernier empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié, devenu l'incarnation du mouvement religieux et culturel des Rastafari. Quant à vous, Mathias,
non, c'est pas Mathias. Vous vouliez que ce soit ce Mathias qui présentait vous l'émission, mais il n'était pas dispo. Non, il était sur Rire et Chanson.
C'est un mélange entre Rasta et Mathieu.
D'accord, c'est ça que vous. D'accord. Ok.
Quant à vous, Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'une star de la Jamaïque, un dieu aussi, mais un dieu des stades.
Ouais. Il court le 100 mètres en 9 secondes et 58 centièmes. Seul un guépard est plus rapide que lui. Oui, Stéphane, aujourd'hui, je vous raconte le destin de l'homme le plus rapide du monde, le Jamaïcain Usain Bolt. Mais l'histoire, c'est avant tout le partage. Comme disait le poète. Passe le ouinge, il y a du monde sur les cordes à linge. Il faut faire tourner Stéphane et présenter nos chroniqueurs.
Alors elle nous entraîne dans l'intimité de l'histoire. C'est Clémentine Portier Kaltenbach. Bonjour Clémentine.
Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Est-ce que vous vous souvenez de Gregor McGregor, Mathieu, vous nous avez
bien
posé
sûr. Une
question. Oui, c'est l'escroc écossais qui avait vendu un pays bidon, le Poyet, en Amérique centrale à 250 personnes qui sont parties là-bas. Ils sont toutes mortes dans la jungle. Bon, il y a quand même eu 50 survivants. Eh bien, 40 ans plus tard, après la guerre de sécession, il y a des soldats confédérés qui ne voulaient pas vivre dans un monde dominé par le Nord anti-esclavagiste où ils voulaient continuer à avoir des esclaves. Et donc, ils sont partis, ils ont quitté les États-Unis, ils sont installés au Brésil et ils ont créé deux villes là-bas, Americana et Santa Barbara. Et je vous raconterai leur histoire.
Très bien. Avec nous également, David Castel-Lopez qui revient aux origines d'une invention qui fait notre bonheur au quotidien.
Oui, tout à fait, qui fait le bonheur des beaux jours qui arrivent en particulier. C'est les tongs. Les tongs.
Alors là, on a eu de Stéphane. Les tongs, ça, c'est un accessoire que vous utilisez l'été.
L'été, oui.
Vous, Stéphane Bern porte la tongue.
Bah, écoutez, oui, pas avec chaussettes, vous voyez.
Oh, parce que j'espère bien quand même.
Il y a des tongs chaussettes.
Oui, et comme toutes les choses pas cool du tout, je pense que ça va revenir à la mode à un moment.
Si
tant est que ce n'est pas revenu à la mode, je ne suis pas au courant.
Le string du pied, comme on disait.
Exactement.
Ils font des tongs chez nos boutins, Stéphane. Avec le dessous rouge.
La semelle rouge n'a pas d'importance. Que vous êtes sur la plage. Hein. Avec vous, Olivier Pouls, vous allez nous parler d'une. Vous remontez aux origines d'une recette d'un plat.
Une recette typiquement jamaïcaine. Le plat un peu phare de la Jamaïque, ça s'appelle Rice and Peas. C'est assez bon en fait, c'est un mélange
de riz et de pois.
Alors on pourrait penser quoi ? David vient de faire un clin d'œil pour se foutre de votre gueule. Donc allez-y David, développer. C'était rice and peace qui pouvait laisser penser que c'était.
C'est les pois comme la paix.
Voilà exactement. Oui, c'est plutôt un son zeu à la fin. Je pense.
Rice and peace. Oui.
Et alors il y a un truc qui est vraiment étonnant, c'est qu'en fait il y a même pas de pois dedans.
Ah bon ?
Ça s'appelle comme ça, mais il y a pas de pois dedans.
Mais il y a de la paix.
Évidemment. On jouera également dans cette émission.
Un programme d'envoi de riz en Afrique, par exemple, Price and Peace.
C'est une belle remarque. Effectivement.
Il fallait que je vous interrompe pour dire ça.
Alors que j'étais en train de lancer Burn to be Alive en disant que c'était un quiz fabuleux qui opposait chaque jour Stéphane à Clémentine, comme quoi. Vous avez bien fait de m'interrompre. Mais tout de suite, attention, quand on n'a pas l'habitude, c'est surtout la première latte qui est difficile. Découvrons notre premier personnage du jour.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Il a popularisé un genre musical et n'a cessé de diffuser en musique des messages de paix.
Dimitris Roussos.
Alors, plus encore que lui, Stéphane. Ah non, lui, c'est le reggae. Stéphane Bern nous raconte un demi-dieu en Jamaïque qui continue à être écouté et adulé dans le monde entier. Bob Marley.
Dans l'histoire, il n'est pas rare qu'un événement historique en cache un autre. C'est précisément ce qui s'est passé en France en mai 1981. Le 10 mai, des millions de Français célèbrent la victoire et l'arrivée au pouvoir du nouveau président François Mitterrand. Une information qui en a écrasé une autre et non des moindres pourtant. la mort le 11 mai de Bob Marley, à seulement 38 ans. En dehors de l'Hexagone, c'est bien cette triste nouvelle qui fait le tour de la planète en quelques heures. Et pour cause, la disparition de Bob Marley, c'est celle d'une superstar mondiale qui fait toujours partie, 41 ans jour pour jour après sa mort, d'un club très fermé, celui des authentiques icônes mondiales. Ses dreadlocks, son visage aux traits émaciés et souriant, au regard pétillant, est toujours aussi puissant que d'autres portraits familiers comme ceux de Che Guevara, d'Einstein ou de Martin Luther King. Affiché, peint ou imprimé, on le retrouve partout comme un symbole de l'amour universel et de la résistance contre toutes les oppressions. Bob Marley, c'est toujours le Jamaïcain le plus célèbre de la planète et le chanteur Manu Chao a dit un jour le plus sérieusement du monde qu'un t-shirt à son effigie valait tous les gilets pare-balles du monde dans les pires quartiers chauds de la planète. Fauché en pleine gloire, Bob Marley est une légende partie trop tôt. Un météore dont l'existence a commencé le 6 février 1945 dans une petite paroisse pauvre de la Jamaïque, Trenchtown, loin des beaux quartiers de Kingston. L'enfance de Bob Marley n'est pas un long fleuve tranquille. Par manque d'argent, bien sûr, mais pas seulement. Dans cette Jamaïque, qui est encore une colonie anglaise, traversée par des luttes sociales et des courants militants souvent radicaux, le petit Robert Nesta Marley, de son vrai nom, souffre d'un double stigmate. C'est un enfant né hors mariage, le rejeton d'une jeune femme noire de 17 ans et d'un homme blanc d'origine anglaise, âgé de 60 ans et incapable de faire face à une paternité qu'il n'assumera jamais vraiment. Toute son enfance, sa peau plus claire voit Bob Marley le surnom peu flatteur de White Boy, le petit blanc, le bâtard. Il se rappellera toute sa vie de ce mépris plus ou moins affiché dans son entourage. Mais il y a aussi, heureusement, de bons moments. Bob Marley grandit dans la petite plantation de ses grands-parents qui cultivent du café, des bananes et du piment. Et la musique est partout, déjà. Son grand-père, Omeria, joue du violon et de l'accordéon. Son oncle fait danser la jeunesse de l'île dans les bals avec sa guitare et son banjo. Alors, Bob Marley s'y met aussi. Il commence très jeune à chanter, à monter ses premiers groupes en se frottant au ska et à la soul américaine qu'on capte tant bien que mal sur les radios jamaïcaines. Sorti de l'école à tout juste 14 ans, l'adolescent passe le plus clair de son temps à jouer et à composer, sans beaucoup de succès d'abord, en tout cas jusqu'en 1963. Cette année-là, celle de ses 18 ans, Bob Marley forme avec quelques copains un groupe baptisé The Wailers, autrement dit les chouineurs ou les guignards. Et ça marche. En février 1964, le titre Simmer Down cartonne et se place directement numéro 1 en Jamaïque. Il faut dire qu'il y a déjà tout Bob Marley dans ce titre. Le son et le rythme, mais aussi un message qui appelle à s'apaiser, à calmer le jeu, dans une île ravagée par la violence endémique qui règne entre les communautés et les ghettos. Les sessions d'enregistrement s'enchaînent, avec une première version de One Love, encore très différente de ce qui deviendra un tube planétaire.
Effectivement, il y a eu un peu de changement.
Mais la percée de 1964 n'est qu'un pétard mouillé. Faute d'un producteur digne de ce nom et du soutien d'un distributeur professionnel, les disques des Wailers se vendent mal. En 1966, Bob Marley doit se résoudre à rejoindre sa mère aux États-Unis pour travailler comme soudeur dans la firme automobile Chrysler. La lumière est pourtant toute proche. En 1973, les Wailers décrochent un contrat avec le célèbre label Island Records. Catch a Fire sort, Natty Dread suit. Et petit à petit, le groupe trouve sa place en assurant les premières parties des concerts des Jackson 5 ou de Stevie Wonder. Mais ce qui va vraiment les propulser sur le devant de la scène mondiale, c'est un western musical influencé par les films de Sergio Leone, J'ai tué le shérif, mais j'ai épargné son adjoint. I shot the sheriff. C'est pas Bob Marley, mais bien, comme vous l'entendez, Eric Clapton, qui a popularisé cette chanson composée quand il était absolument inconnu par celui qui est devenu le King de Kingston. Le 18 juillet 1975, le concert au Lycéum de Londres que Bob Marley ouvre en hurlant « Ja, Rastafari » est le point d'orgue d'une tournée.
Alors, qui... on y croit, Stéphane. J'avais l'impression de revivre ce moment, Stéphane.
qui fait émerger plusieurs tubes planétaires comme « Get up, stand up » et surtout « No woman, no cry ».
Ça, ça passait encore dans ma jeunesse. Ça passe toujours, je crois.
Ah, mais c'est toute ma jeunesse, moi. Ce titre qui passe en boucle sur les radios anglaises, puis les radios d'Europe, avant de toucher le monde entier. L'année suivante, le Rastaman Vibration Tour fait de Bob Marley une superstar. Et comme n'importe quelle superstar, sa vie privée en souffre. Son histoire d'amour avec la top modèle Cindy Breakspear et du Miss Monde 1976 se déroule sous l'œil des caméras. Savoir pourquoi un chanteur touche le public à cette échelle reste évidemment un mystère. Le reggae est un son nouveau, mais cela ne suffit pas à expliquer l'ampleur d'un succès qui doit sans doute beaucoup au message que porte Bob Marley. Un message de paix, d'amour et de fraternité, lancé à tous ceux qui souffrent, à toutes les victimes de la pauvreté et des discriminations. Marley appelle au courage et à la compassion, mais aussi à un combat non violent, dans la lignée de discours de Martin Luther King. Sa cible, ce ne sont pas des individus, mais la grande Babylone, la vieille cité biblique corrompue jusqu'à l'os, celle qui symbolise pêle-mêle le vice, le libéralisme fou, l'envie, l'avarice, l'exploitation sous toutes ses formes. À chaque chanson, Marley défie l'autorité. Et dans Babylon System, on ne fait pas plus clair. Oui, là, le message est clair. Babylone, c'est le vampire qui suce le sang de ceux qui souffrent. Ce sont des voleurs et des assassins qui regardent ailleurs en suçant le sang de ceux qui souffrent.
Alors Stéphane, juste un petit point, on aura le temps d'y revenir probablement après, mais tout à l'heure, on a parlé de Bob Marley and the Wailers, hein, le groupe qu'il a fondé. Vous avez parlé, que Wailers, ça voulait dire les chouineurs ou les guignards. Qui sont les guignards?
Géniards.
Ah, parce que les guignards pourraient être des géniards gays. C'est possible aussi, ça existe, hein, c'est ça que vous voulez dire. Il faut être précis avec les auditeurs.
Des gays géniards,
c'est bien ça, Bob Marley et les gays géniards.
Au-delà de ses textes et de sa musique, Bob Marley touche un public mondial grâce à une sorte d'insolent plaisir de vivre, mais aussi grâce à une culture très particulière et encore quasi confidentielle lorsque sa carrière a commencé. C'est palpable dans toutes ses chansons. S'il est loin d'être le premier Rasta, c'est bien lui qui a fait découvrir au monde la foi et la culture Rastafari avec ses racines jamaïcaines et éthiopiennes. Mais derrière l'image de joie, de lutte et d'espoir que projette Bob Marley, il y a une réalité plus sombre. Engluée dans les tensions politiques et raciales, la Jamaïque cède trop souvent à la violence. Et cette violence n'épargne pas Bob Marley. En 1976, à Kingston, un commando armé débarque à son domicile et se met à tirer. Touché à la tête, sa femme Rota s'en sort miraculeusement. Bob Marley lui-même, touché à plusieurs reprises et pourtant présent sur scène, deux jours plus tard pour le concert Smile Jamaica à Kingston, et appelle une fois encore à la paix et à l'apaisement. Mais il ne lui reste hélas plus beaucoup de temps pour porter son message. Depuis 1977, Bob Marley est atteint d'une forme particulière de cancer. Un mélanome détecté par hasard au niveau de son orteil gauche, dont il a longtemps hésité à se faire opérer, inquiet de ne plus pouvoir danser sur scène ou jouer au football, son autre passion, en cas d'amputation. En 1980, Bob Marley s'effondre en plein milieu d'un jogging. Les médecins découvrent que le cancer s'est généralisé et qu'il ne lui reste plus que quelques mois à vivre. Quelques mois que Bob Marley étirera autant que possible dans une clinique allemande avant de mourir au cours d'une escale sur la route du retour vers la Jamaïque, le 11 mai 1981 dans un hôpital de Floride. La légende veut qu'il ait été enterré avec sa Bible, une perruque faite de ses dreadlocks, sa guitare, un ballon de foot, mais aussi un peu de marijuana, ou plutôt de ganja, qui est bien plus qu'une drogue pour les Rastas, plutôt une herbe religieuse et sacrée qu'il a beaucoup consommée.
C'est comme ça que je la vois aussi, Stéphane, vous savez.
Ce qui est en tout cas certain, c'est que la musique à qui Bob Marley a donné une visibilité mondiale n'est jamais morte. Mieux encore, 37 ans après sa mort, le reggae est officiellement entré en 2018 au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, qui souligne la contribution de cette musique à la prise de conscience internationale sur les questions d'injustice, de résistance, d'amour et d'humanité. Autant de mots, de combat même, qui restent à jamais associés à Bob Marley.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour en savoir plus sur Bob Marley, nous sommes Stéphane avec un journaliste qui lui a consacré une biographie de référence, comme on dit. Bonjour Francis Dordor.
Bonjour.
Bonjour Francis Dordor, vous êtes journaliste musical et l'auteur en effet d'une passionnante biographie Bob Marley, le dernier prophète, qui nous a aidé à nourrir ce récit. Un récit sur l'annonce de la mort de Bob Marley il y a 41 ans aujourd'hui, le 11 mai 1980. J'imagine que vous vous souvenez de ce moment. Comment est-ce que vous avez appris la mort de Bob Marley et comment la France a réagi? On a vraiment perdu quelqu'un d'important ce jour-là.
Oui, tout à fait. Ça a été assez retentissant. Évidemment, c'est intervenu le lendemain de l'élection de François Mitterrand. Donc, ça a un petit peu occulté, si vous voulez, l'événement lui-même. Mais il s'avère qu'à titre personnel, moi, j'étais déjà au courant de sa maladie. Donc moi, quelques mois auparavant, j'avais déjà pratiquement, enfin ce qu'on fait généralement dans les rédactions, c'est-à-dire on prépare ce qu'on appelle des nécros, et j'ai juste effectivement aménagé un petit peu le texte de manière à lui donner évidemment une certaine vérité de l'instant, quoi.
Et vous aviez rencontré Bob Marley à plusieurs reprises. Et quelle impression vous a-t-il laissé?
Alors moi, je l'ai rencontré les 6 dernières années de sa vie, à différentes occasions, évidemment, souvent dans un cadre professionnel. C'est-à-dire que c'était, voilà, des interviews qui étaient relativement bien encadrées. Alors, c'est aussi une période de sa vie, ces 6 dernières années, qui sont faites un peu de haut et de bas, c'est un peu les montagnes russes, avec, effectivement, la tentative d'assassinat, son succès absolument planétaire, sa maladie, donc tout ça, ça déterminait un peu son humeur du moment, quoi. Cela étant, ce que j'en garde, c'est effectivement le charisme, le magnétisme qu'il pouvait dégager.
Mmh. Stéphane l'a dit dans le récit, il y a beaucoup de violence et de pauvreté en Jamaïque, notamment à Trenchtown, le quartier chaud de Kingston, où vit le jeune Bob. C'est ce contexte qui façonne, entre autres, le personnage et le discours qu'aura Bob Marley dans ses chansons. C'était pour lui le seul moyen de s'en sortir.
Toute la dimension sociale et politique de ses chansons relève effectivement de cet environnement particulier, du fait qu'il ait grandi. Alors, il habitait une partie de Trenchtown qui était relativement préservée, enfin, suite à une tempête, suite à une tornade, il y avait une partie de Trenchtown qui avait été un peu réhabilitée, et du coup, lui habitait plutôt dans un contexte un peu moins difficile, mais en même temps, il vivait au milieu d'une communauté qui, elle, souffrait énormément, effectivement, de la précarité, de la pauvreté. Moi qui ai pu visiter ces endroits, effectivement, on se rend bien compte que c'est véritablement insalubre, et que y vivre, y faire grandir ses enfants, c'est un vrai combat de tous les jours. Donc ce combat, il l'a intégré à lui-même, à son œuvre, et il en a fait effectivement ce qu'on peut appeler des hymnes contre les inégalités, contre l'injustice, contre le racisme, contre l'oppression.
On comprend, et vous le racontez dans votre livre, que Bob Marley a été souvent rejeté à cause de ses origines métisses. Ça sera quelque chose qu'il suivra toute sa vie, cette double identité, et ce rejet en partie par ses compatriotes?
Alors toute sa vie, non, mais il est clair que pendant son enfance, son adolescence, c'est quelque chose dont il a énormément souffert. Du fait que, la Jamaïque est structurée de telle manière que la couleur de peau, généralement, correspond effectivement à un statut social. Effectivement, d'avoir un petit métis se retrouver dans un des endroits les plus déshérités de l'île, de la Jamaïque, ça a posé un problème. Les gens n'acceptaient pas ou avait une forme de réticence par rapport à lui. L'exemple le plus emblématique, je pense, le plus qui symbolise un petit peu cette situation, c'est au moment où il a effectivement une de ses premières relations amoureuses avec une jeune fille de Trenchtown, et dont le frère va s'interposer, va refuser, va lui interdire effectivement de voir Bob parce qu'il n'a pas la bonne couleur de peau. Donc ça, c'est quelque chose dont il va souffrir. Et petit à petit, effectivement, il aura deux modes d'intégration, d'assimilation à sa communauté. D'abord le football, parce qu'il était excellent. Il aurait pu faire d'ailleurs, je pense, une carrière professionnelle. Et deuxièmement, la musique, il a évidemment fait, où là, il a pris fait et cause où il s'est, voilà, il s'est érigé comme étant un des porte-parole, si vous voulez, de la déshérité de l'île, et en devenir effectivement le symbole que l'on sait.
Bob Marley devient un adepte, on l'a dit, du rastafarisme. Qu'est-ce qui l'attire et l'influence dans ce courant religieux? Il trouve enfin un groupe, voire une famille à laquelle il peut se rattacher, c'est ça?
Oui, il y a cet aspect-là, évidemment. Il trouve une communauté, il trouve ce qu'on appelle des brethren, c'est-à-dire des co-religionnaires, avec lequel il va partager évidemment des valeurs. L'une des dernières chansons, et je pense que ça résume un petit peu toute sa carrière, l'une des dernières chansons, et même la dernière chanson du dernier album qu'il a enregistré, Redemption Song, le dit très bien. Il chante la rédemption du peuple africain, du peuple noir. Ça, c'est un élément fondateur de cette religion. Donc, il va en devenir effectivement un peu par la force des choses, parce que il est ni le fondateur de cette église, voilà, une église. Le duo Rasta, c'est Haïlé Sélassié, c'est l'empereur d'Éthiopie, et lui en devient effectivement le messager, le principal messager, à tel titre que le Rastafari sera connu grâce à Bob Marley, et que énormément de communautés vont s'implanter un peu partout. À titre personnel, évidemment, il va trouver au sein de cette communauté, il va trouver quelque chose qui véritablement unifie ce qu'on pourrait appeler son moi un peu divisé, son moi fracturé, et une source d'inspiration pour ses chansons. Ça, c'est évident.
D'ailleurs, Bob Marley n'est pas l'inventeur du reggae, mais il est son représentant le plus célèbre. Est-ce qu'on connaît les origines véritables du reggae?
Alors, le reggae, comme toutes ces musiques caribéennes, mais au-delà, voilà, les musiques de cette ère culturelle, sont évidemment des musiques, ce qu'on peut appeler des musiques créoles, c'est-à-dire des musiques métissées, des musiques de mélange, qui ont à la fois des origines africaines, et notamment toute la partie rythmique. À cela s'ajoutent évidemment d'autres éléments. La pop, ça suit un peu l'évolution de la musique de la deuxième partie du 20e siècle. Et lui en est effectivement la figure principale. Il va récupérer un peu tous ces éléments, et peu à peu, évidemment, il va conformer cette musique à sa propre personnalité pour en faire quelque chose, un langage qui soit universel.
Stéphane, il est revenu dans le récit sur le succès immédiat de Bob Marley, grâce notamment à la reprise d'Eric Clapton qu'on a entendu tout à l'heure. Pourtant, vous dites que Bob Marley n'a jamais vraiment conquis les États-Unis de son vivant. Alors, pour quelle raison? Est-ce que c'est parce que ses messages étaient trop politisés pour l'Amérique en pleine guerre froide?
Alors, d'une part, Bob Marley, il a mis quand même près de 10 ans à percer. Hein. Donc, son succès immédiat, c'est peut-être un peu relatif. Alors, expliquer pourquoi il n'a jamais réussi à percer aux États-Unis de son vivant, parce que depuis, les faits contredisent ce premier état, c'est qu'en fait, je crois qu'il y avait une forme de décalage complet. Les États-Unis vivaient à ce moment-là une forme de... Voilà, le peuple afro-américain était en phase d'être accepté, si vous voulez, on sortait un peu de la lutte des droits civiques. De plus en plus de jeunes noirs américains accédaient à la classe moyenne, pouvaient effectivement approcher, voire toucher le rêve américain. Et voir un chanteur qui effectivement, lui, revenait finalement à quelque chose qui était celui de l'origine, de revenir sur l'esclavage, de revenir sur un passé traumatique, je pense que ça pouvait pas coller. Ce qui fait qu'effectivement, il y a eu un complet décalage, à tel titre, si vous voulez, c'est quand Bob Marley a joué au célèbre Apollo de Harlem, qui est le lieu où, par exemple, tous les grands chanteurs de soul, Otis Redding, Sam Cooke, etc., mais aussi Martin Luther King, qui a fait des discours au cœur de Harlem, donc dans cette salle, qui est vraiment l'Apollo. James Brown a enregistré 2 ou 3 albums à l'Apollo, donc c'est vraiment un lieu symbolique, si vous voulez, pour la culture et pour la communauté noire américaine. Il a été complètement bluffé par le fait qu'en fait, dans la salle, c'était essentiellement des Blancs qui étaient venus le voir. Ça a été une des grandes déceptions de sa vie. Évidemment, il pouvait pas imaginer qu'après sa mort, aujourd'hui, Bob Marley, effectivement, est devenu une référence absolue. Mais ça a mis du temps. Il a fallu effectivement que, par exemple, des rappeurs comme Snoop Dogg, etc., reprennent à leur compte, si vous voulez, une forme de toute la symbolique, tout ce que portait Bob Marley. Donc ça a mis énormément de temps, mais de son vivant, c'est vrai qu'il a été complètement ignoré par le public américain.
On le rappelait, Bob Marley est mort il y a 41 ans aujourd'hui. Pourtant, il reste toujours un artiste de premier plan. Vous dites dans votre livre qu'en écoutant aujourd'hui n'importe laquelle de ses chansons, on a le sentiment qu'elles ont été écrites le matin même et que comparé à d'autres figures musicales comme Jimi Hendrix ou les Beatles, Bob Marley est totalement épargné par la nostalgie. Ce qui veut dire qu'il a réussi l'exploit d'un immense artiste, c'est-à-dire de faire des chansons intemporelles.
Mais c'est-à-dire que j'ai pris cet exemple parce que pour moi, si vous voulez, quand j'écoute les Beatles ou d'autres artistes de cette période-là, il y a une forme d'insouciance. On est vraiment, on baigne encore dans cette atmosphère particulière, si vous voulez, des années 60, des années 70. Bob Marley était confronté à quelque chose qui finalement s'est vérifié un peu partout dans le monde. Depuis sa mort, effectivement, les principales chansons qui chantaient, les preuves en est, si vous voulez, c'est que son dernier album s'appelle Uprising. Uprising, ça veut dire soulèvement. Ben, l'actualité nous en donne témoignage. Je veux dire, on a des soulèvements là ces dernières années. On a eu, je veux dire, que ce soit en France, en Algérie, au Liban, à Hong Kong, en Amérique du Sud. Enfin, je veux dire, c'est quand même un fait planétaire. Et les questions d'écologie sont abordées dans ses chansons. Les questions d'injustice sont abordées dans ses chansons. Donc, si vous voulez, ce chaos que l'on vit aujourd'hui, ce dysfonctionnement planétaire, il l'avait déjà pressenti et du coup intégré dans ses chansons. Et je pense que ça en fait quelque chose effectivement de très actuel, de très contemporain. Et ça, c'est particulier à ce chanteur. C'est pas quelque chose que l'on retrouve dans les chansons des Beatles ou d'autres artistes de cette époque-là.
Et Francis, si vous deviez retenir une seule chanson de Bob Marley, ça serait laquelle ?
Il y en a tellement, c'est très très difficile. Ben, j'avais choisi Three Little Birds.
Ah oui.
Three Little Birds, parce que pour moi, c'est une chanson de réconciliation, et je crois qu'il y a bien une chose dont on a besoin aujourd'hui, à peu près partout, c'est bien de cela. Donc voilà, c'est une chanson qu'il a écrite à un moment un peu idyllique. Je pense que c'est aussi marqué par sa relation avec Sidney Breakspeare à l'époque. Donc il est dans une espèce de, sinon d'euphorie, du moins d'apaisement, de contentement et d'harmonie. Voilà. Et je pense que cette chanson l'exprime tout à fait.
Merci beaucoup, Francis Dordor, d'être revenu avec nous sur cette star incontestée et intemporelle de Jamaïque. Je rappelle l'ouvrage que vous lui consacrez, Bob Marley, le dernier prophète, paru aux éditions GM.
Merci à vous.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires sans jamais se dérober. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, eux l'ont fait. Ils ont fui les États confédérés d'Amérique pour le Brésil, où ils se sont installés pour le plus grand bonheur du roi. C'est leur histoire que vous nous racontez.
Et oui, Stéphane, parce que au Brésil, l'esclavage était légal. Alors voyez-vous, certains confédérés, eux, qui avaient l'habitude dans leur plantation d'avoir toute une main d'œuvre plus ou moins gratuite, étaient totalement déstabilisés le jour où ils en ont été privés. Donc ils ont fui vers d'autres destinations
latitude.
Où on pouvait encore avoir des esclaves. Bon, vous savez que la guerre de sécession s'est terminée en 1865, donc par la défaite des confédérés, qu'on appelle plus volontiers les sudistes, et la victoire du Nord avec Abraham Lincoln, l'abolition de l'esclavage. Ça a été un conflit absolument sanglant. On considère que c'est la première vraie guerre moderne, la guerre de sécession.
Une guerre civile, surtout dramatique.
Et en plus, une guerre civile. 600 000 victimes militaires.
Oui, c'est horrible.
L'économie du Sud laissée complètement exsangue. Et l'armée confédérée dissoute. Alors justement, comme certains refusent de vivre dans un monde dominé par le Nord, il n'y a pas simplement l'aspect de l'esclavage, ils décident de quitter les États-Unis et vont partir pour l'Empire du Brésil. Et le Brésil n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. Le Brésil, c'est déjà un vaste ensemble territorial de nos jours, mais à l'époque, il faut y ajouter l'Uruguay. C'est un pays colossal. Pourquoi cette destination en particulier ? Parce que l'empereur de l'époque, Dom Pedro, était partisan du Sud dans la guerre civile américaine. Et puis surtout, il avait besoin d'agriculteurs expérimentés pour développer sa propre industrie du coton et de la canne à sucre. Or, La plupart des confédérés viennent d'États agricoles, Alabama, Texas, Louisiane, Mississippi, Géorgie, Caroline du Sud, sont des grandes régions agricoles. Et donc, parmi toute cette main-d'œuvre, il va y avoir des propriétaires fonciers, bien sûr, et des agriculteurs. D'ailleurs, le premier colon notable est un ancien sénateur de l'Alabama et colonel dans l'armée sudiste, William Hutchinson Norris, est un des premiers à débarquer au Brésil. Et l'empereur, Dom Pedro, leur fait tapis rouge, voyez. C'est un peu comme l'électeur de Prusse au moment de la révocation de l'édit de Nantes qui a dit « Allez, allez, venez chez moi, là, apportez-moi votre savoir-faire ». Là, ce n'est pas exactement les mêmes conditions parce que c'est donc des confédérés qui vont là où il y a encore de l'esclavagisme. Et donc, il leur accorde des prix préférentiels pour acheter des terres. Il les laisse créer leurs plantations. Il leur accorde des franchises d'impôts. Et puis, il va leur accorder leur faciliter l'accès à la nationalité brésilienne. Donc, selon les sources, de 10 à 20 000 confédérés auraient fui les États-Unis pour s'installer là-bas. Alors, 8 à 10 000 au Brésil. Et ils y débarquent entre 1865 et 1885. Des années à leurs yeux bénies, parce que pendant cette vingtaine d'années, l'esclavage existe encore.
Sauf que la fille de Dom Pedro, la régente Isabelle, va abolir l'esclavage.
Exactement, en 1888. Donc ça n'aura pas duré longtemps, cette histoire. Mais quand ils arrivent, en tout cas, les esclaves ne coûtaient pas très cher au Brésil. Les 54 premières familles en auraient acheté 536. Alors là, c'est très flou parce que j'ai cherché à droite à gauche un peu des infos. D'autres sources parlent de 4 familles qui possédaient 66 esclaves. Alors, allez retrouver vos petits là-dedans. En tout cas, les descendants sudistes étaient évidemment très douloureux, très en colère, très amers. Ils avaient le mal du pays. Bon, ils ont quand même réussi à créer des petites communautés et à préserver, à conserver leur patrimoine culturel dans ce nouveau pays. Ils ont créé 2 petites villes. Santa Barbara,
qui tu me diras pourquoi j'ai le mal de vivre.
Bah oui, c'est tout à fait ça, les communautés confédérées au Brésil. Vous connaissez les Lockridge et les Capwell à Santa Barbara, vous?
Bien sûr, je regardais ça avec ma mamie.
Ah, ben voilà, ben oui, ben c'est ça. Non, mais ça me va, allez-y. Hein. Bon, bref, Santa Barbara et Americana, ces 2 petites villes américaines autour de Rio et de Sao Paulo. Et ils sont installés là parce que c'est là que le climat et le sol ressemblaient le plus à leur sud natal. Ils sont partis des États-Unis avec des graines de coton et du maïs américain à replanter là-bas. La première maison confédérée au Brésil a été construite à Americana. Il y a encore de temps en temps des fêtes là-bas, typiquement américaines, en plein Brésil. Et alors, aussi étrange que ça puisse paraître, certains esclaves affranchis ont suivi leur maître au Brésil de leur plein gré. L'histoire la plus connue est celle de Steve Watson, qui a émigré au Brésil avec son ancien propriétaire, le juge texan Dyer. Dyer a fait de lui l'administrateur de sa scierie, et quand Dyer, qui avait trop le mal du pays, a décidé de retourner aux États-Unis, il a laissé tous ses biens au Brésil, à Watson. Eh ben, voyez, il n'y avait pas que des salopards dans les anciens esclavagistes confédérés.
Ben, c'est une belle conclusion.
Belle conclusion. Merci beaucoup, Clémentine.
Stéphane, le Brésil, un pays que vous connaissez bien, vous êtes décoré pour service rendu à la samba.
Non, alors
ça, c'est quelque chose... C'est quelque chose que je n'ai pas compris. Peut-être pouvez-vous nous éclairer là-dessus.
Non, j'ai
Stéphane.
Fait beaucoup d'émissions sur le Brésil.
Vous dansiez vous-même.
Ah ben, vous ne m'avez pas vu en jaune poussin.
Sauf que je vous ai vu en jaune poussin et je veux dire que c'est mérité.
Plus,
on vous a repéré, ils vous ont dit
repéré,
venez,
là.
On va vous décorer.
Ils se sont dit, lui, il défend bien les valeurs du Brésil.
Eh bien écoutez, bravo Stéphane. Encore une décoration, vous n'avez plus de place sur la veste.
Non, mais ça va être bien.
Comme
le
un
poussin
dignitaire
qui suivra
soviétique.
Mon cercueil.
Ça sera bien.
À mon avis, il faut un deuxième là maintenant.
Un coussin. Alors, qui suivra mon cercueil.
Ça sera magnifique. Il y a un endroit où vous n'aurez jamais de décoration, Stéphane, c'est le quiz. C'est tout de suite.
Ah oui.
Europe 1, historiquement vôtre.
Au début, c'était un divertissement rieur, souvenez-vous, une petite compétition sans conséquence. Mais le jour où Stéphane a compris que son image était en jeu, le quiz est devenu tout autre chose. Désormais...
Ça s'appelle la guerre.
Jouons à Born to be Alive. Stéphane, la première question est pour vous, c'est la tradition. J'aimerais commencer par un peu de spiritualité, qui vous fait défaut souvent, en évoquant un religieux érudit, Denis le Petit. Nous sommes au 5e siècle. On lui doit en latin le Nemo Auditur, l'Anno Domini ou le Filum Crine d'Ajdung.
Pardon.
excusez-moi si vous parlez. Si vous n'êtes pas latiniste, ne vous en amusez pas. Ayez honte. Le Nemo Auditu, l'Anno Domini ou le Filum Crine d'Achung.
Nemo Auditu, c'est Nemo, c'est personne. Personne Auditu.
Personne n'écoute.
Oui. Le suivant, c'est quoi?
Anno Domini. Et le troisième, c'est
Filum Crine d'Achung.
Dachshund, c'est un tekel.
Vous êtes sûr de votre latin,
Stéphane? Ah oui, oui. Dachshund. Dachshund, c'est un chien tekel. Donc, si vous voulez, je vais écarter cette... parce que je ne pense pas qu'au 5e siècle, on aimait à ce point les dachshunds. Non, je me dirais le premier, Nemo Audito.
Vous avez perdu.
Ah non.
C'était le second?
Denis le Petit, on lui doit l'Anno Domini. C'est-à-dire quoi, l'Anno Domini? Il ne suffit pas de me dire Anno Domini, qu'est-ce que c'est l'Anno Domini? C'est très important, c'est ce qu'il y a de plus important pour vous, chrétiens.
Oui, c'est l'année...
La datation de la naissance de
l'année
Jésus-Christ.
L'année de Dieu...
L'année de naissance de Jésus-Christ, datation toujours en vigueur, même si on sait aujourd'hui qu'elle n'est pas exacte.
C'est lui
même
qui a
Benoît
établi que le Christ était né...
Exactement.
Là, c'est ça, oui. Voilà.
Le Nemo Auditur, c'est en droit une locution latine qui signifie qu'on ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes. Et quant au Filum Crine d'Achung, vous l'avez deviné Stéphane, c'est un tekel à poil dur, en latin, selon Google Traduction. Mais Google Traduction a peut-être des failles. Question numéro 2 pour vous Clémentine. 1977, les premiers visiteurs parisiens viennent voir ce grand bâtiment fait de tuyaux de toutes les couleurs, le Centre Beaubourg. Qui filme le public qui arrive? Est-ce Rossellini? Est-ce Claude Lelouch? Ou est-ce Akira Kurosawa?
Ah, c'est rigolo comme question, ça. Je pense que c'est Lelouch ou Kurosawa, ça serait rigolo. Qu'est-ce qu'il fout chez la Paris en 77? Non, le plus logique, ça me paraît Claude Lelouch.
Vous avez perdu.
La logique, parfois, vous joue des tours. C'est Roberto Rossellini. Quelques mois seulement avant sa mort, il filme l'ouverture du centre au public. C'est un documentaire qui sera donc le dernier film du maître. Il filme le musée, surtout le rapport des visiteurs avec les œuvres. Resté longtemps inédit, le film sera projeté pour la première fois en France à l'occasion des 40 ans du Centre Beaubourg.
Je l'ignorais.
Question numéro 3 pour vous, Stéphane Bern. Louis XIII prend la décision en 1640 d'opérer une profonde réforme du système monétaire. Ça vous aura pas échappé. La pièce d'or devient un louis d'or. Le louis d'argent est appelé écu. Et en 1656, Louis XIII décide d'ajouter une pièce de cuivre appelée liard. Vrai ou faux?
Non, c'était un demi-louis.
Mais le demi-louis s'appelle peut-être le liard, justement. Le liard existe, en tout cas, comme monnaie. Mais est-ce que c'est...
Je vous repose la question dans sa totalité. Louis XIII prend la décision, en 1640, d'opérer une profonde réforme du système monétaire. La pièce d'or devient louis d'or, le louis d'argent est appelé écu. Et en 1656... Louis XIII décide d'ajouter une pièce de cuivre appelée liard. Vrai ou faux?
Je dirais faux.
Et on peut savoir pour quelle raison?
Il rajoute une pièce de cuivre. Je crois qu'il a rajouté une pièce de cuivre, mais elle ne s'appelait pas liard.
Bon, vous répondez faux.
Je réponds, c'est faux.
Vous avez gagné.
Vous avez gagné, même si vous n'avez pas vu le piège de cette question. Tout est vrai. Stéphane, exactement ce que j'ai dit est vrai, sauf que ce n'était pas en 1656, pour une raison simple, c'est qu'il
est mort déjà,
depuis 1643.
43, oui, bien sûr.
Pour l'instant, 1 à 0. Question numéro 4 pour vous, Clément. 1919, Olivier Pouls n'est pas né. Il aurait peut-être adoré, et plus particulièrement à Boston, car à Boston, en janvier, il y a eu un mini tsunami de bière, qui a fait certes de nombreuses victimes, mais comme c'était un tsunami de bière, ça valait le coup d'être là, vrai ou faux?
Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Une fuite dans une...
Oui, mais en aucun cas, une fabrique de bière qui prend feu ou un bateau qui sombre. C'est une cargaison de bière qui a été victime d'un tsunami. Alors à ce moment-là, ça ne serait pas un tsunami de bière. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette question?
Qu'est-ce que vous répondez?
Non, je réponds non.
Vous avez gagné.
C'est une très bonne réponse qui vous permet d'être à égalité. Il n'y a pas eu de tsunami de bière. Cette histoire n'aurait évidemment aucun intérêt s'il n'y avait pas eu un autre tsunami encore plus incroyable, un tsunami de caramel. Il y a eu tout de même 21 morts et 150 blessés dans cette histoire. Un gigantesque réservoir situé en hauteur a soudainement explosé. 8 700 000 litres de mélasse sont déversés. Une vague de 5 mètres a dévasté tout un quartier. La légende dit qu'aujourd'hui encore, dans ce quartier de Boston, quand il fait chaud, ça sent le caramel.
Ah, magnifique histoire.
Question numéro 5, elle va vous départager, mes gourmands. C'est durant l'Égypte ancienne que l'on trouve trace pour la première fois de bagues que l'on offre à l'être aimé au moment de s'unir à jamais. Les bagues circulaires symbolisent le cycle éternel. Mais quelle femme a reçu pour la première fois une alliance faite de diamants qui forme ses initiales ? Trois possibilités. Marie de Bourgogne, Marie de Modène, Marie Myriam.
Marie de Bourgogne.
Victoire ? Ah oui, moi j'aurais donné à Stéphane Bern.
Vous l'auriez donné à Stéphane Bern, ça m'étonne.
Stéphane, je suis désolé. C'est la régie qui décide. C'est Clémentine qui l'emporte avec Marie de Bourgogne. Et celui qui a cassé sa tirelire, c'était qui ?
Qu'est-ce qui a voulu épouser Marie de Bourgogne ?
C'est forcément l'empereur d'Autriche. C'est Maximilien.
De Habsbourg.
Maximilien Joseph d'Autriche. Alors ça vaut peut-être un point de dernière minute. Nous sommes le 21 avril 1477, elle a 20 ans et lui 18, Maximilien.
Ah, le grand mariage, le mariage fondateur.
Elle était très courtisée.
Qui a donné la
Bourgogne.
Parce
qu'elle était la fille de Charles le Téméraire, non ?
Oui, bien sûr.
C'est ça, oui.
Bien sûr.
16h, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur d'Historiquement vôtre. Il flotte dans ce studio un nuage étrange, un nuage qui fait rire. Probablement lié, Stéphane, à notre thème du jour.
Oh, certainement, puisqu'on réunit des Restas en Jamaïque. Après Bob Marley, qui a largement dépassé les frontières de la Jamaïque pour devenir la star interplanétaire du reggae, je vous raconte le dieu des Rastafariens, l'empereur éthiopien Haïlé Sélassié, qu'un pays tout entier continue d'idolâtrer, non pas l'Éthiopie, mais la Jamaïque. De votre côté, Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'une Resta jamaïcaine plus proche de nous.
Oui, Stéphane, sa passion vous est totalement étrangère puisqu'il s'agit de la deuxième chose que vous détestez le plus au monde après les éoliennes, la course à pied. Pire ! La course à pied où il faut aller très très vite. Aujourd'hui, je vous raconte comment Usain Bolt est devenu le roi du sprint, recordman du monde du 100 mètres, du 200 mètres aussi. Un indice, Olivier Pouls, c'est pas en s'enfilant des côtes de bœuf le week-end comme certains autour de cette table. Quoique, nous verrons. Ah. Un sacré coup de fourchette, le Usain.
Ah oui, bah oui, faut mettre tout ça dans...
C'est pour ça que je cours très vite aussi.
Non, c'est pas pour ça.
Alors justement, puisque vous en parlez, Mathieu, voici nos chroniqueurs. D'abord David Castillo-Lopez, qui nous raconte les origines des tongs.
Oui. Les tongs, les origines du mot, les origines de la chose, vous saurez tout.
Avec nous, Olivier Pouls, qui lui est vraiment resté un petit peu en Jamaïque avec Rice and Peas.
Ouais, je vais vous parler du... C'est le plat emblématique de la Jamaïque, du riz et des pois, si on devait de le traduire. Mais il n'y a pas de pois, il y a d'autres choses. Ah non, il n'y a pas de trucs qui font rire. Hein. C'est un plat, vous pouvez le manger, vous serez...
C'est pas c'est un space rice and peas, ça c'est une version un peu particulière qu'on peut demander.
Éventuellement, il y a des recettes d'ailleurs, pas mal de recettes aussi à base de cannabis, mais je ne vous ai pas proposé un gâteau qui rigole.
Mais un jour, vous le ferez ? Ah non, on n'a pas le droit.
Non,
on peut raconter l'histoire. Bon, la lutte finale, ce sera en fin d'émission. Le grand quiz qui nous oppose. Et je crois que Olivier Pouls est toujours en tête, mais nous verrons ça tout à l'heure. Tout de suite, le temps que Stéphane retrouve ses feuilles OCB, on part à la rencontre de notre deuxième personnage du jour.
Europe 1.
16h, 18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
En Jamaïque, il est considéré comme un dieu vivant, l'incarnation d'un immense mouvement.
Patrick Sabatier.
Ah non, toujours pas Stéphane. Lui est le roi des rois, le dernier empereur du royaume d'Éthiopie, devenu, sans le vouloir, leader proclamé du mouvement des Rastafari. Stéphane Bern peigne ses dreadlocks et nous raconte Haïlé Sélassié.
La Jamaïque n'est pas la plus grande île des Caraïbes, c'est Cuba. Et pourtant, grâce à des figures comme Bob Marley ou le coureur Usain Bolt, dont vous nous parlerez tout à l'heure, Mathieu, tout le monde ou presque reconnaît au premier coup d'œil le drapeau de la Jamaïque avec sa croix de Saint-André jaune et ses triangles vert et noir. Mais il y a une autre couleur qu'on associe à la Jamaïque à côté du vert et du jaune, le rouge, qui vient compléter le drapeau des Rasta, ou plutôt des Rastafari dont Bob Marley est l'un des représentants les plus célèbres. Trois couleurs qui sont en réalité celles de l'Éthiopie. Le vert pour la terre et l'espoir, le jaune pour l'harmonie et le rouge pour la force. Si les racines de la population jamaïcaine sont largement africaines, les Rasta, eux, ont repris les couleurs d'un pays qui se situe pourtant à 12 000 km de la Jamaïque grâce à un homme et un seul, Haïlé Sélassié, le dernier empereur d'un royaume d'Éthiopie vieux de plus de 3 millénaires lorsqu'il en prend la tête en 1930. Les Rastas n'ont d'ailleurs pas emprunté que ces couleurs à l'Éthiopie.
Le nom même de ce courant culturel et religieux, le Rastafari, est une référence au titre et au véritable nom de Haïlé Selassie, né en 1892, sous le nom de Ras Tafari Makonnen, le duc Tafari Makonnen. Et si pour le monde entier, Haïlé Selassie reste d'abord un dirigeant africain de premier plan, il est bien davantage aux yeux des Rastafari, l'incarnation même de Dieu sur terre, la troisième après Melchisédek, un prophète de l'Ancien Testament, et Jésus-Christ. Rien que cela, oui. Pour comprendre comment Haïlé Selassie est devenu un dieu vivant en Jamaïque, il faut réunir deux fils. Le premier, c'est celui qui tisse le parcours de ce jeune prince de la société éthiopienne, élevé dès l'enfance pour devenir un leader politique. À la mort de la régente Zefditou, Haïlé Selassie devient par un coup d'État contre l'héritier au trône, le 225e empereur d'Éthiopie, un chef politique mais aussi religieux, élu par le patriarche de l'Église orthodoxe, à la tête d'un des plus vieux royaumes chrétiens du monde, à en croire la tradition qui en fait le lointain descendant de Salomon et de la reine de Saba. Son titre entier prend un peu plus de temps, mais il le mérite. Haïlé Selassie, roi des rois, seigneur des seigneurs, lion conquérant de la tribu de Juda, comme l'a d'ailleurs chanté Bob Marley. Lumière du monde et élu de Dieu. Le second fil nous ramène à la Jamaïque dans les années 1920, au temps où l'île est encore une colonie anglaise. Pour une partie des premiers grands leaders jamaïcains de la cause noire, comme Marcus Garvey, Leonard Percival Howell ou Charles Edwards, l'Éthiopie, qui reste alors le seul État d'Afrique à n'avoir jamais été colonisé, devient un symbole de liberté et de dignité. Pour ces militants baignés dans un mélange de culture chrétienne et jamaïcaine, les esclaves noirs déportés au temps du commerce triangulaire sont à l'époque moderne ce qu'étaient les juifs du temps de l'Exode dans la Bible. Un seul peuple qu'il faut réunir pour retrouver l'Afrique des origines. Petit à petit, cette promesse de rédemption faite de l'Éthiopie chrétienne la nouvelle terre promise et de son roi, un nouveau prophète et même un dieu réincarné, le fameux Jah des Rasta. Et bien sûr, le moindre signe est interprété comme une preuve de plus de la nature divine du roi des rois. En 1930, au moment où Haïlé Selassie monte sur le trône éthiopien, la Jamaïque voit enfin la pluie s'abattre après une interminable période de sécheresse. S'il est un mouvement religieux, le rastafarisme est aussi un mouvement culturel, avec ses rites, ses croyances, ses codes, ses coutumes, comme le fait de ne pas manger de viande pour ne pas faire de son corps un cercueil, ou de laisser ses cheveux pousser pour former les fameuses dreadlocks. La drogue, la ganja, est aussi au centre des pratiques religieuses, un moyen utile et sacré de s'élever vers Dieu. Haïlé Selassie lui-même n'a jamais adopté la foi rastafari, mais la grande histoire lui a donné une envergure qui n'a jamais cessé de nourrir celle des fidèles en Jamaïque. En 1936, lorsque l'Italie de Mussolini envahit l'Éthiopie pour en faire une colonie, le courage obstiné de Haïlé Selassie, exilé à Londres, force l'admiration du monde occidental. Et c'est un petit homme frêle, à la barbe soigneusement coupée, vêtu d'un sombre et long manteau, qui monte à la tribune devant l'Assemblée de la Société des Nations à Genève pour s'adresser à la communauté internationale. Le message de Sa Majesté impériale, comme il est introduit, message prononcé en langue éthiopienne, reste un moment marquant de l'histoire de la lutte contre le fascisme des années 30. Bien des années plus tard, en 1963, cette fois devant l'ONU, et en pleine guerre froide, Haïlé Selassie prononce là encore un discours vibrant en faveur de la paix, un discours dont Bob Marley s'inspirera pour écrire les paroles d'un de ses titres les plus célèbres, War. Until the philosophy which hold one race superior and another inferior is finally. Converti au rastafarisme, Marley fera beaucoup pour populariser la foi et le mouvement en ouvrant tous ses concerts par la même phrase. Salutations au nom de Sa Majesté impériale Haïlé Selassie, dieu des Rastas. En 1966, Haïlé Sélassié se rend en Jamaïque et le miracle de 1930 se répète, inversé cette fois. Alors qu'il pleut depuis des jours, il fait grand soleil, lorsque l'avion du roi des rois se pose sur le tarmac de Kingston, devant une foule heureuse d'apercevoir enfin ce dieu incarné. En échange, Haïlé Sélassié offre aux Rastas une terre en Éthiopie, une terre qui est d'ailleurs toujours habitée aujourd'hui par les descendants des Rastas. Un symbole fort pour la Jamaïque. Idéalisé par les Rastas, Haïlé Sélassié laisse pourtant une image de dirigeant assez largement écorné par ses dernières années de règne. Derrière le souverain éclairé, il y a un autre Haïlé Sélassié plus dur et plus conservateur. Derrière la modernisation d'Addis Abeba, la capitale et la vitrine de l'Éthiopie, il y a une réalité qui devient de plus en plus palpable à la fin des années 60. Celle d'un pays resté figé dans le passé, dont le PIB est l'un des plus bas du continent. En 1973, le choc pétrolier renforce encore les difficultés de la vie quotidienne dans un pays où l'espérance de vie moyenne ne dépasse pas 30 ans. À 80 ans passés, le concernant, Haïlé Sélassié n'est plus prophète qu'en Jamaïque, pas dans son pays. Le 12 septembre 1974, un coup d'État renverse le dernier empereur d'Éthiopie, assigné à résidence dans son palais. Un an plus tard, il est retrouvé mort dans son lit. Et on sait aujourd'hui qu'il fut assassiné, étouffé par un sbire anonyme du dictateur en place, le colonel Mengistu Mariam. Mais pour les 30 000 Rastafari, peu importe, la mort terrestre du dernier empereur d'Éthiopie ne change rien. L'amour de Jah est éternel, comme celui qu'il porte à Haïlé Sélassié.
Et pour continuer à parler d'Haïlé Sélassié, nous sommes Stéphane avec une géographe qui le connaît bien. Bonjour Estelle Soyer.
Bonjour.
Bonjour Estelle Soyer, vous êtes professeure de géographie culturelle à l'Université de Genève et vous avez beaucoup travaillé sur les derniers empereurs d'Éthiopie. Déjà, pourquoi Tafari Makonnen prend le nom d'Haïlé Sélassié ? C'est un nom avec un sens particulier ?
Oui, alors en Éthiopie, tous les noms ont des significations de manière générale. Mais dans le cas de Haïlé Sélassié, c'est d'autant plus important que les rois prennent en général des noms de règne programmatiques. Et donc, Tafari Makonnen prend le nom de Haïlé Sélassié, soit puissance de la Trinité. Et la Trinité, c'est un symbole qu'il va beaucoup utiliser, notamment dans ses armoiries.
C'est pourtant son nom de naissance, si j'ai bien suivi, Tafari Makonnen, qui va donner son nom au courant Rastafari. Pour quelle raison ?
Alors, je ne pourrais pas vous donner les raisons exactes de la réutilisation du nom Tafari Makonnen et non Haïlé Sélassié, mais ce qu'on peut dire, c'est que en fait, Tafari Makonnen accède au pouvoir en fait dès 1917 sous le nom de Rastafari. Il va devenir roi en 1928 sous le nom de Negus Tafari Makonnen. Et en fait, c'est dès les années 20 qu'il va commencer à être connu et reconnu dans le monde et que l'actualité politique de l'Éthiopie rencontre d'autres mouvements, notamment aux États-Unis et notamment aux Caraïbes, puisque c'est le journaliste, orateur, entrepreneur Marcus Garvey, qui est aussi panafricaniste, qui va attirer, dès les années 20, leur attention vers l'Éthiopie et vers ce nouveau chef d'État qui est alors Rastafari, puis Negus Tafari.
Le rastafarisme est avant tout un courant religieux. Je suis revenu sur ses origines en Jamaïque, mais comment est-ce qu'il s'est concrètement développé ?
Alors, son développement est important, en fait. C'est pas seulement un mouvement religieux, c'est aussi un mouvement qui a une dimension très politique, puisque quand le Jamaïcain Marcus Garvey appelle les Jamaïcains notamment à porter leur attention sur l'Éthiopie, en fait son but c'est de mobiliser politiquement et culturellement les communautés noires dans les Amériques, pour leur faire prendre conscience de leur propre identité, pour les inciter aussi à prendre le dessus à la fois économiquement, politiquement, culturellement. Et ce qui est intéressant, c'est que ce courant Rastafari se développe d'abord et avant tout auprès de populations qui sont des populations extrêmement défavorisées économiquement, politiquement. Et c'est par les prêches, c'est par l'oralité que ce courant va se diffuser, avec une idée forte qui est que ces populations complètement marginalisées cherchent finalement à retrouver une dignité en s'affiliant, en revendiquant leur affiliation non pas à la couronne d'Angleterre, mais à un roi qui leur ressemble, à un roi africain.
Il y a quand même un paradoxe. Comment vous expliquez que le rastafarisme a jamais pris d'une certaine manière en Éthiopie?
Alors en fait, en Éthiopie, pour l'église orthodoxe et pour la religion orthodoxe, c'était une hérésie complète, puisque le rastafarisme considère Haïlé Selassie, qui est d'abord et avant tout, qui est un roi, mais qui est d'abord et avant tout un être humain, comme un nouveau messie. Et en Éthiopie, Haïlé Selassie est resté d'abord et avant tout un homme politique, même s'il était sacré. En revanche, il y a eu un vrai changement, je crois, à partir de 2005, parce que la famille Marley est venue faire un grand concert à Addis Abeba, sur la plus grande place de la ville, la place Maskal. Et en fait, alors le public éthiopien était très très nombreux. Au début, tout le monde était assez sceptique. Mais finalement, de voir des étrangers venus du bout du monde brandir des drapeaux éthiopiens, répéter qu'ils aiment l'Éthiopie, répéter qu'ils aiment Haïlé Selassie, ça a quand même inspiré la jeunesse. Et depuis, en fait, le reggae s'est diffusé en Éthiopie. Et ça permet aussi en Éthiopie de diffuser auprès de la jeunesse une autre image de la place du pays dans les relations internationales et dans l'histoire.
Haïlé Selassie abolit l'esclavage en Éthiopie dans les années 20. Il devient un héros aussi de la résistance contre l'Italie. Il se positionne comme pionnier du mouvement de décolonisation qui touche l'Afrique dans les années 50. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour l'Éthiopie et qu'il aurait dû faire selon vous?
Alors son règne est extrêmement long puisqu'il commence à prendre le pouvoir en 1917 et il le perd en 1974. Donc c'est difficile de dire ce qu'il a raté, mais ce qui est sûr, c'est que sa destitution par un coup d'État était favorisée par le fait qu'il a refusé de passer le pouvoir. Notamment à partir des années 50, au lieu de préparer la transition et peut-être d'ouvrir son pouvoir à d'éventuels successeurs et à de plus grands compromis politiques, il a au contraire renforcé son pouvoir personnel. Et il y a eu un fossé de plus en plus long entre un pouvoir autocratique et une société qui évoluait.
Haïlé Selassie, c'est aussi une figure controversée. On vous dit que le faste et les succès diplomatiques éloignent le souverain du quotidien des citoyens et de leurs problèmes économiques et sociaux. On lui reproche finalement de délaisser son peuple.
Oui, alors l'Éthiopie était traversée par des problèmes assez importants, notamment des aspirations indépendantistes érythréennes. Il y avait aussi de gros problèmes économiques et notamment ce qui va être fatal pour Haïlé Selassie, c'est une famine qui ravage le nord du pays en 1973. Et en fait, Haïlé Selassie passe en partie sous silence cette famine. Ça a contribué à la baisse de sa popularité et puis à l'expression de la colère qui va s'exprimer avec la révolution de 74.
Aujourd'hui, est-ce que le négus est toujours célébré en Jamaïque et puis peut-être en Éthiopie?
En Jamaïque, oui, vous l'avez rappelé, avec ce mouvement Rasta qui a dépassé complètement les frontières de l'île de la Jamaïque. En Éthiopie, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a eu une reconnaissance assez lente, même quand le derg a été renversé au début des années 90. Son corps n'a été enterré avec une vraie cérémonie qu'en 2000. Par contre, aujourd'hui, son palais va bientôt être transformé en musée à Addis Abeba. Et c'est le signe d'une volonté de mieux intégrer son règne et l'histoire de son règne dans le patrimoine de l'histoire du pays. Mais en Éthiopie, la mémoire et l'histoire est aussi un champ de bataille. Et selon aujourd'hui qu'on imagine et qu'on se projette dans une Éthiopie, dans une grande Éthiopie avec ses frontières actuelles, ou au contraire qu'on critique cet héritage de la grande Éthiopie, on va avoir une vision très, très différente de cet héritage.
Mais merci beaucoup, Estelle Soyer, d'être venue avec nous sur cet empereur qui a inspiré les Rastas sans lui-même en être un.
Merci à vous.
Merci à vous.
Et pour les auditeurs qui voudraient en savoir plus sur le prédécesseur d'Haïlé Selassie, l'épisode d'Historiquement Vôtre consacré à Ménélique II est toujours disponible, je le signale, en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement Vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement Vôtre, on évoque des Rastas en Jamaïque. Après Bob Marley et Haïlé Selassie, vous nous brossez, Mathieu, le portrait, à 99% vrai, d'une légende de l'athlétisme, Usain Bolt.
On sait très tôt si notre corps va nous permettre un jour de devenir l'homme le plus rapide du monde. Vous, par exemple, Stéphane, dès l'âge de 11-12 ans, quand c'était l'heure du cours d'EPS, vous n'étiez pas parmi les premiers à bondir vers le gymnase.
Non, comment vous le savez ?
Je le sais, j'ai des informateurs. C'est à contre-cœur que vous refermiez votre manuel d'histoire dans lequel vous coloriez fiévreusement l'arbre généalogique des Saxe-Cobourg pour enfiler votre survêt en soupirant.
Oh, la galère !
Une passion relative pour le sport qui ne vous quittera jamais, puisqu'aujourd'hui encore, il vous arrive souvent de soupirer en disant
« C'est fatigant de faire l'amour 3 fois par jour ».
Usain Bolt, Stéphane, c'est simple, c'est l'anti-vous. Lui, il adorait les cours de PS et il est devenu l'éclair, l'homme le plus rapide du monde, qui était aussi le surnom qu'avait donné Constance à David, mais pour d'autres raisons. Oui.
Ah.
Bref, Usain Bolt, c'est donc l'anti-David, l'anti-vous, mais l'anti-nous aussi. Il mesure 1m96, il chausse du 48, et sur sa cheminée, si tant est qu'on ait besoin d'une cheminée en Jamaïque, trône 8 médailles d'or olympiques, 13 titres de champion du monde, il a été désigné 6 fois athlète de l'année, et malgré tout, Usain Bolt a la réputation d'être resté ce qu'on appelle un bon gars. Le type sympa avec les médias, avec ses concurrents, toujours décontracté, toujours fair-play, à régaler les caméras avec de facétieuses grimaces, des petits pas de danse. En Jamaïque, c'est plus qu'un athlète, c'est un homme. Il voit le jour le 21 août 1986 dans la paroisse de Trelawney, au pays du doux cerfeuil euphorisant. Ses parents tiennent l'épicerie locale, il grandit dans la brousse, où les distractions se construisent à la force de l'imagination, disent les biographes, où on se fait royalement chier, dirait Stéphane. Le petit Usain passe le plus clair de son temps, je cite, à rôder, explorer et courir pieds nus dans la forêt, au mépris des dangers qui rôdent. Oui Stéphane, même si aux dernières nouvelles, il y a peu de léopards en Jamaïque. Son père lui donne une responsabilité qui va jouer dans son développement physique, remplir les réserves d'eau pour toute la famille en enchaînant les allers-retours jusqu'à la rivière. Voilà qui vous forge une endurance, reste à bosser le mental. Et là, un événement va l'y aider, la mort accidentelle de son papy sous ses yeux. On avait une cuisine extérieure et le sol était humide, il a glissé, son crâne a heurté la porte, il a fallu courir chez les voisins pour chercher du secours, trop tard. De ce drame, le petit Usain va tirer une leçon de vie, ne jamais arriver trop tard. Et pour ne jamais arriver trop tard, quoi de mieux que de courir vite ? À mesure que ses cuisses s'affûtent, Usain apprend aussi la discipline au contact d'un père que nous qualifierons de rugueux. Sa méthode, le martinet. Non, pas utilisé comme ça, Stéphane. Il me frappait partout sauf au visage, c'est la coutume en Jamaïque. Ses fessées m'ont enseigné la différence entre le bien et le mal et ont fait de moi l'homme que je suis. Des propos qui peuvent nous mettre mal à l'aise, d'autant qu'on est obligé d'en constater l'efficacité. Méthode martinet, Usain Bolt, méthode Dolto, Carlos. Un point pour Papa Bolt. Bon. Faut dire aussi que dès l'âge de 13 ans, Usain est diagnostiqué, on a l'image, mais oui. Usain est diagnostiqué hyperactif, il est évidemment dingue de sport, mais fun fact étonnant et même sidérant, on lui détecte une sévère scoliose. Sa jambe droite est 1,5 cm plus courte que la gauche. Visiblement, ça l'a pas trop gêné, puisqu'à 12 ans, après un pari lancé par un prêtre, il écrase à la course son copain Ricardo, réputé pour sa vitesse. L'abbé déclare « Si tu bats Ricardo, tu peux battre n'importe qui ». Pour faire plaisir à monsieur le curé, Usain participe donc à quelques courses interscolaires et il atomise tout le monde. Mais en vrai, il s'en fout. Parce qu'à l'adolescence, Usain Bolt a une autre passion, Stéphane.
Le porn-hub.
Non, pas le porn-hub, le cricket, Stéphane. C'est là sa vraie passion à Usain Bolt. Alors, pour le convaincre de se mettre sérieusement à l'athlétisme, son coach curé, là, lui fait du chantage. Il lui promet en cas de victoire quelque chose. Alors, non pas une PS4, non pas une belle paire de baskets, non un panier garni de poulet mariné avec patates douces rôties. Oui, vous découvrez ici une autre facette insoupçonnée pour un mec gaulé comme Usain Bolt, monsieur est gourmand. Et la stratégie dite du poulet mariné s'avère gagnante, il se lance, décroche ses premières médailles, tout va très vite puisqu'à 15 ans, il est déjà le plus jeune champion du monde junior de l'histoire. À 16 ans à peine, il expose le record du monde du 200 mètres lors des championnats panaméricains de Bridgetown. Les médias parlent alors du nouveau Michael Johnson, ce qui, Stéphane, avouons-le, ne vous avance pas beaucoup puisque vous ne savez pas qui est Michael Johnson.
Absolument.
S'ensuit une micro-période de doute, il arrive blessé au JO d'Athènes et donc moins performant, surtout avec sa scoliose, éliminé. L'année suivante, aux Mondiaux d'Athènes, il s'arrête à mi-course à cause d'une douleur à la cuisse. Chochotte, s'écrit la presse jamaïcaine qui se met à douter de son champion. Usain fait du boudin, il veut plus sortir, il s'enferme chez sa maman. Pour limiter les souffrances que lui inflige son dos, il décide alors de rendre visite à un sorcier allemand.
Ich liebe dich wie Apfelmus. Mein Herz schlägt wie ein Pferdefuß, wenn ich dich sehe.
C'est allemand qu'on est, c'est Papy V de la Résistance. Son nom, Healing Hans, soit Hans le guérisseur. Il est très réputé en Allemagne et auprès des célébrités partout dans le monde, il compte parmi ses patients Cristiano Ronaldo, Bono, Pavarotti, Michael Jordan, Andy Murray ou encore l'étoile montante du waterpolo portugais David Castello Lopez qui le consulterait dans un but bien précis.
Conserver les vigueurs du zizi.
Ses méthodes, c'est pas très clair. Lui parle d'homéopathie, ESPN parle d'infiltration. Ce docteur revendique par ailleurs l'utilisation d'Actovegin, un produit à base de sang de veau. Bon, on sait pas très bien ce qui bidouille, mais ça marche puisque 2008 sera l'année de tous les records pour Usain Bolt, record du monde du 100 mètres lors du meeting de New York où il sera officiellement rebaptisé La Foudre. Quelques mois plus tard, au JO de Pékin, il remporte 3 médailles d'or sur 100, 200 et 4 fois 100 mètres. Puis se disant que ça ne suffit pas, il décide d'établir de nouveaux records sur chacune des 3 distances. La suite est, ma foi, conforme à la trajectoire du sportif de haut niveau qui a tout réussi, à savoir qu'il se crache dans une voiture de luxe. Après une convalescence de quelques mois, Usain reprend le chemin de la piste au JO de Londres en 2012 où il se dit
« Va falloir courir vite, ouais. Vite, très vite. »
Il triomphe à nouveau au championnat du monde à Pékin en 2015, rebelote, sauf qu'on frôle le drame puisqu'un caméraman chinois monté sur Segway, trop occupé à filmer Usain, ne voit pas la rambarde de sécurité, se la prend et s'étale en renversant notre champion. Vous pouvez pas faire gaffe, je bosse moi, chiki chiki, dit le caméraman fautif, avant d'être muté dans un camp de travail à la frontière du Tadjikistan. En 2016, à Rio, la magie continue, puis en 2017, c'est l'heure de la retraite. Ou de la reconversion. Grand fan de foot et de Manchester United, Usain annonce qu'il s'entraîne pour jouer en Premier League. Bon alors autant vous dire que ça va pas le faire, hein. Il va s'essayer aussi à la musique avec, dirons-nous, autant de bonheur que notre cher Tony Parker. Parmi ses autres passions, entre autres la PlayStation, le reggae, la gastronomie, avec Olivier Pouls, un produit signature et éminemment noble, le Nuggets. Et l'amour dans tout ça, me direz-vous. Eh bien, outre une belle collection de petites copines interchangeables, Usain a surtout connu une grande désillusion. Et oui Stéphane, Usain s'est pris un vent par Rihanna. Plus qu'un vent, il s'en est pris 3.
Non.
Et Jerry Puma, comme la chanteuse, il demande un jour au chasseur de talent de la marque d'organiser une rencontre avec elle. La chanteuse ne répond pas, Bolt décide alors de contacter directement la star au téléphone. Sans intermédiaire cette fois. Silence radio. Il persiste et lorsqu'il se retrouve enfin pour un événement Puma dans le même hôtel parisien que Rihanna, il retente sa chance, réponse, rien. Finalement, c'est l'assistant d'un des attachés de presse de la chanteuse qui offrira à Usain Bolt une place pour assister au concert et l'admirer sur scène. Ouch! Et on peut pas gagner tout le temps, man. Enfin, c'est de l'histoire ancienne puisque Usain Bolt trouvera finalement chaussure à son pied avec une certaine Casey Bennett le 18 mai 2020. C'est le premier ministre de la Jamaïque en personne qui annonce la naissance de sa fille. La famille s'est agrandie depuis puisqu'en juin, il a eu des jumeaux. Sportivement, il est donc en retraite, mais il paraît qu'il fréquente toujours le cabinet du sorcier munichois où David tente parfois d'engager la conversation avec lui, bien maladroitement, il faut le dire.
Eh hey, ouais, t'as vu les muscles? Ça va pas? Touche les muscles, je suis pas une gonzesse.
Forcément, ça ne l'impressionne pas beaucoup, Usain ouais. Bolt.
Merci Mathieu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages qui sont des restas en Jamaïque.
Pour retrouver ceux qui sont des restas en France, et c'est déjà très bien comme ça. À commencer par Olivier Pouls, mais on repart en Jamaïque pour un plat typiquement jamaïcain.
Ouais, je vais vous concocter un rice and peas.
Du riz et des pois, mais avant tout, David Castello-Lopez nous entraîne aux origines d'un objet de notre quotidien, qui fait vraiment notre quotidien, surtout le quotidien de Stéphane Bern. Je l'imagine bien à Paros l'été, accueillant ses invités en tongs. C'est ça, Stéphane?
Non, en fait, j'ai des sandales grecques.
Voilà, je pense que vous avez plutôt ça.
Je préfère la sandale.
La sandale.
Celle qui monte jusqu'aux genoux, pratiquement.
Non, non, pas la spartiate.
Mais d'où vient la tongue, David Castello-Lopez?
Ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble, mais malheureusement, on n'est pas encore assez intime pour que vous ayez vu mes pieds. Personne ici,
mais
je pense,
n'a
vu les pieds.
Plage, quoi, ouais.
Et je pense que je n'ai vu les pieds de personne. Il va falloir que vous me croyez sur parole en conséquence. J'ai de très beaux pieds. J'ai des pieds aussi beaux que des pieds peuvent l'être. Et comme j'ai conscience que tous les pieds sont moches, ça veut juste dire que j'ai des pieds moins moches que la moyenne. Non, vraiment, c'est très beau à voir. C'est-à-dire, c'est des pieds équilibrés, fins et surtout d'une délicatesse remarquable qui confine, je l'avoue, à la fragilité. Et cette fragilité, elle fait que jamais de ma vie, je n'ai pu porter des tongs parce que la petite ficelle en plastique qui vient se loger entre le premier et le second orteil et permet aux pieds de se solidariser à la semelle et donc de marcher, cette lanière, elle me fait mal instantanément. Je me suis déjà dit, bon, c'est pas grave, ça va passer. Eh bien, ça passe pas du tout et rapidement, la souffrance se transforme en martyr. J'exagère. À peine. Je sais que je viens de passer une minute à parler de mes pieds sur une radio nationale, mais si je me permets de le faire, c'est que je sais que ça intéresse tout le monde. Tong, ça s'écrit T-O-N-G en français, mais c'est un mot qui vient du mot anglais thong, T-H-O-N-G, qui veut dire lanière pour les pieds en l'occurrence, mais qui peut tout aussi bien être une lanière pour les fesses. Et oui, string en anglais, ça se dit pas string, mais thong. La nièvre,
oui, c'est vrai.
Pour les fesses.
Le même mot.
En revanche, et je sais que c'est compliqué, je suis désolé, mais tong en anglais, ça ne se dit pas tong, ça se dit flip-flops. En raison du bruit caractéristique qu'elles font quand on marche. Je vous ai fait un petit extrait. Voilà, flip-flop, flip-flop, c'est pour ça que ça se dit flip-flop.
Vous n'avez pas fait une chanson.
En anglais. Non, pas encore.
Non, on s'attendait à ce que ça démarre.
C'est vrai que j'aurais pu y aller. Alors, il y a plein d'histoires différentes qu'on trouve sur l'origine des tongs, mais ces histoires, elles s'accordent toutes sur un point. Toutes les tongs modernes sont des dérivés d'une tong originelle qui venait de où, à votre avis ?
La Chine.
Non, pas loin.
Pas loin de la Chine.
Japon. Le Japon. Oui, bien sûr, ils ont cette fameuse chaussure avec...
Exactement, les samouraïs. Exactement, avec des chaussettes, et chez eux, c'est cool. Au Japon, ces tongs donc immémoriales, elles s'appellent des ori, et ce sont historiquement en fait tout à fait des chaussures qui sont tout à fait semblables à des tongs modernes, sauf qu'elles sont en paille de riz et en jonc. Ces ori japonaises, elles ont essaimé un petit peu partout dans le Pacifique à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui montre que, certes, la guerre, c'est pas bien, mais des fois, ça permet d'avoir des tongs. À Hawaï, il y a une entreprise qui a commencé à les fabriquer, ces tongs, et c'est par ce biais que c'est devenu une composante en Occident de la culture du surf. C'est un peu les premiers en Occident qui ont mis des tongs. Ensuite, l'étape clé de la grande histoire des tongs, c'est bien sûr au Brésil qu'elle a lieu en 1962.
C'est les
Havaianas. En 1962,
marque,
exactement.
C'est une marque, Havaianas.
Ah, c'est complètement une marque. 1962, c'est ce que j'allais dire, c'est la création de la seule marque de tongs que tout le monde peut citer, les Havaianas. Un mot portugais donc qui veut tout simplement dire les Hawaïennes.
Ah d'accord.
Mais oui, ça veut juste dire ça. Pendant à peu près 30 ans, les Havaianas, elles ont surtout été portées par les classes populaires, parce que c'était des tongs bon marché et solides, donc des chaussures de pauvres. Et puis, dans les années 90, Havaianas a vu qu'il perdait des parts de marché au Brésil. Et donc, ils se sont dit, tiens, et si on rendait nos tongs désirables pour les gens qui sont pétés de flouze ? Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont créé pour ça la ligne Havaiana Top, et ça a marché au-delà de leurs espérances, puisque à partir de ce moment-là, Havaianas, c'est devenu une marque cool, d'abord au Brésil, puis dans le monde entier à partir du début des années 2000. Le symbole suprême de cette internationalisation du cool de la tong brésilienne, c'est la cérémonie des Oscars en 2003, où tous les nominés ont reçu une paire de Havaianas incrustées de brillants. Il me reste simplement à parler de l'avenir de la tong. C'est quoi l'avenir de la tong ?
Mais oui, hein, je me demandais.
Ben oui, vous m'en parliez encore l'autre jour. L'avenir de la tong, comme l'avenir de tout, il est dans une tong équitable, durable, voilà, et respectueuse de la déconstruction. C'est-à-dire une tong qu'on puisse recycler, qui rémunère correctement les producteurs et qui n'utilise pas de motifs tribaux issus de cultures considérées comme dominées. J'ai pas trouvé de label de tong qui fasse toutes ces promesses à la fois, donc je pense que la place est à prendre.
Il y a un créneau.
Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire des tongs, vous pouvez lire le chapitre que Armel Enders, spécialiste du Brésil, y a consacré dans son livre universitaire qui s'appelle La mondialisation. C'est pas son livre, pardon, c'est le chapitre qu'elle a écrit. Le livre en général s'appelle La mondialisation par les objets. Je m'en suis servi pour cette chronique. Il y a moins de blagues, mais il y a plus d'infos quand même sur les tongs. Voilà.
Bah, on a hâte de découvrir ça.
Ah ouais, c'est bien.
Mais c'est passionnant l'histoire de la tong.
Ah oui, vraiment, oui. Merci David, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr.
Olivier Pouls est notre expert gastronomique et aujourd'hui un plat que vous maîtrisez, mais alors à la perfection, en hommage à notre émission, le plat typique jamaïcain.
Et qu'on peut cuisiner et déguster en tong sans aucun problème. Ouais, je vous le recommande même, ça vous met complètement dans l'ambiance. Alors, je sais pas si vous connaissez un peu la cuisine jamaïcaine, mais c'est vrai que chez nous, elle n'est pas très très populaire. J'ai donc cherché quel était le plat typique jamaïcain et je suis tombé sur ce fameux rice and peas avec une petite étrangeté. Tout d'abord, c'est que si on traduit évidemment le nom du plat, riz et pois, on se dit que logiquement, c'est du riz avec des petits pois. Et ben en fait, quand on regarde la recette, il n'est pas du tout question de pois, il n'y a pas de pois du tout dans la recette, mais il y a des haricots rouges. Alors j'imagine que par pise, ils entendent haricots rouges. Alors, cette association riz-haricots rouges, en fait, elle est dans le monde entier. On en trouve de nombreux exemples, dans toutes les Caraïbes, bien sûr, mais aussi jusqu'en Inde ou au Japon. Ce sont deux produits qui s'associent très bien parce qu'ils sont bon marché, assez caloriques et plutôt rassasiants. Donc, c'est une base de nourriture dans des pays où il n'y a pas toujours beaucoup d'argent pour acheter à manger. Mais ça peut quand même être délicieux quand c'est préparé avec un tout petit peu d'intelligence. Et c'est le cas de ce plat. Alors, pour ce plat, il faut également rajouter du piment. Alors, il faut savoir qu'il y a un piment traditionnel de la Jamaïque, qui est un peu leur fierté, qui s'appelle le scotch bonnet. Et ce piment qu'on trouve
hyper fort, non ?
Alors voilà, ça a été pendant de nombreuses années le piment le plus fort du monde. Ouais, ça ne l'est plus, on a croisé aujourd'hui d'autres piments. Non, il y a une espèce de course de dingue course à l'armement du piment.
Non, qui fait ça parle beaucoup de la course à l'armement nucléaire, mais piment, pas. Ouais,
alors que c'est vraiment un truc, hein, je peux vous garantir. Et donc l'idée, c'est de monter de plus en plus fort en taux de capsaïcine, hein, c'est la molécule qui vous arrache littéralement la gueule, exactement, pour monter le plus haut possible dans la fameuse échelle de Scoville, qui est l'échelle qui mesure la puissance des piments. Alors voilà, il est plus aujourd'hui numéro 1, mais enfin, il reste quand même dans le top 5 ou dans le top 10. Si vous ne pouvez pas en trouver, vous pouvez trouver un autre piment plus facilement chez nous, qui lui aussi envoie un peu. C'est le piment habanero, qui lui est le piment traditionnel des Antilles, notamment, et qu'on peut trouver chez nous. Alors, pour réaliser ce plat, qui est un plat mijoté, on s'y prend un tout petit peu à l'avance, il vous faut 200 grammes de haricots rouges secs. Précaution importante, il faut les réhydrater. Donc, vous les mettez au moins 12 heures dans de l'eau que vous changez régulièrement, de manière à ce qu'ils soient de nouveau préparables. Donc, un piment habanero, 400 grammes de riz.
Vous mettez le piment entier là-dedans.
Alors, je vais vous expliquer. 40 centilitres de lait de coco, un oignon émincé, deux branches de thym, un petit peu de gingembre, une petite gousse d'ail et puis du sel. Donc, une fois que vous avez fait tremper vos haricots 12 heures dans l'eau froide, vous les cuisez dans un litre d'eau à peu près, avec le lait de coco, une belle pincée de sel, l'oignon, l'ail, le thym, le gingembre et le piment. Mais le piment, vous le mettez entier, parce que quand il est entier, le piment, au moment où il va cuire, il va infuser, entre guillemets, et il va pas libérer trop de puissance. Il faut le tenir un peu à l'œil, parce qu'à partir du moment où le piment commence à se défaire, là, la capsaïcine qui est contenue à l'intérieur se libère dans le plat, et bon courage pour le manger après. Donc, je vous conseille, si vous ne voulez pas que votre plat soit trop puissant, vous le laissez infuser pendant une vingtaine de minutes, puis vous le retirez. Vous pouvez goûter si vous trouvez que c'est encore supportable, mais méfiez-vous. Alors après, on rajoute le riz et on va encore laisser mijoter pendant 30 minutes à petit feu. Et on rajoute un petit peu de sel, de poivre à la fin pour rééquilibrer le plat. Et c'est aussi simple que ça. Donc vous avez ces haricots rouges qui sont très moelleux, très 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 confits. Le riz, le piment qui vient vous réveiller, puis toutes ces petites saveurs. Voilà pour un plat typiquement jamaïcain, à déguster donc en tongs ou pas.
Merci Olivier pour cette recette et on retrouve toutes vos recettes, toutes plus exotiques les unes que les autres, sur le site europe1.fr.
Alors c'était du piment, là je vais pimenter votre vie avec la lutte finale maintenant.
Historiquement vôtre.
David, je commence avec vous aujourd'hui.
Okay.
Emma Goldman fut une figure éminente de la pensée libertaire et féministe. Je sais que pour certains ici, ça fait deux gros mots, mais pas pour moi. Elle fut qualifiée par le président américain Hoover de femme la plus dangereuse de l'Amérique, ou plutôt de femme la moins désirable de l'Amérique.
Je pense que l'intérêt de la question, ça doit être terriblement sexiste. Donc j'imagine que c'est la deuxième option. Je choisis la deuxième option. Oh non, la plus dangereuse.
Oui, c'était la femme la plus dangereuse. Parce qu'elle disait que la violence était l'un des moyens mis à disposition des anarchistes pour faire passer le message. À la fin de sa vie, elle évoluera en déclarant que la violence qui devait d'abord être condamnée était la violence d'État. Enfin bon, elle était...
Non, plus j'aurais dû m'en douter parce que je pense que pour Hoover, aucune femme n'était désirable, si je me souviens.
Oui, c'est vrai. Alors Mathieu, dans l'histoire de la Belgique...
Ah.
Le pays a légalisé d'abord l'euthanasie ou d'abord le mariage des homosexuels ?
Ils ont d'abord légalisé l'euthanasie et puis le mariage des homosexuels.
Bonne réponse, ne doutez pas. L'euthanasie en 2002 et puis le mariage pour tous gay quoi en 2003. Voilà.
Oh oui, c'était dans la foulée.
Dans la foulée, oui, l'année d'après. Olivier. Oui, j'aurais pu vous poser la question pour les Belges, mais pour les Belges, il n'y en a plus. Alors, quel âge avait... Alors que là, c'est une question sur la Russie.
D'accord.
Et
oui,
comme chacun sait,
je connais très bien, ouais.
Mathieu parle très bien le russe. Quel âge avait Maria Ivanovna Poutina quand elle a eu le petit Vladimir ? Elle avait 21 ans ? Elle avait 31 ans ? Ou elle avait 41 ans ?
Je pense que l'intérêt de la question, c'est qu'elle avait justement 41 ans. Elle était donc âgée, si elle avait eu 21 ans.
Moi, je dirais ça aussi, parce qu'on n'a jamais vu la mère de Poutine. Non, peut-être plus, que elle est peut-être décédée.
Ouais. Donc, je vais dire 41 ans.
Mais quelle super réflexion.
Bah, bien sûr.
Et voilà, elle avait 41 ans, elle est décédée en 1998. Vous savez, Vladimir, au fond, il a des circonstances atténuantes.
Ah oui, il est temps de nous les dire.
Le troisième enfant est seul survivant après le décès de ses deux frères aînés, décédés en bas âge dans les années 30.
Oui, ils les avaient tués.
On portait de graves accusations.
Ça n'excuse rien, oui. Je tiens à le dire. Oui. Mais ça peut expliquer des traumas.
Ah, voilà. Ça, des traumas, il a dû en avoir de trois.
Alors,
j'ai pas fait exprès, mes frères sont morts.
Il faut que je vous dise une chose, je sais que ça va faire un choc. C'est que Mathieu Noël et Olivier Poul sont à égalité. C'est-à-dire que là, maintenant, ils se disputent pour la première place.
Et moi, je suis combien derrière? On peut me dire ou pas?
Vous êtes à un point, derrière.
Un mouchoir de poche.
Donc, après cette journée, vous serez à deux points.
Oui,
évidemment. Alors, la question qui départage Olivier de Mathieu. 1975, c'est l'année de naissance de Jamel Debbouze, de Laetitia Hallyday et de Fluide Glacial. En quelle année la revue humoristique propose de la couleur à ses lecteurs?
Fluide Glacial a longtemps été en noir et blanc.
J'essaie de visualiser.
Moi j'ai connu Fluide Glacial en couleur depuis petit, donc je vais dire 1992. Moi,
et moi j'ai dit 1978.
Bon, vous en êtes tous les deux assez loin, mais c'est quand même Mathieu qui gagne. C'est 2003. Jusque-là, le maître,
avec la couverture,
Marcel Gottlieb, trouvait que noir et blanc, c'était très bien.
Ah, oui. Ah mais j'ai eu chaud parce que moi, je pensais à la couverture.
Non, c'est à l'intérieur. C'est d'accord. Parce que vous ne l'avez jamais ouvert.
Mais si, je l'ai vu. Fluide Glacial, c'était marrant, mais je ne me souvenais plus de la couleur. En tout cas, j'ai gagné. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça que l'histoire retiendra, Stéphane. Oui.
Vous êtes numéro 1. Olivier Poul, c'est numéro 2. Et David est numéro 3, mais à...
Un point à chaque fois.
Un point à chaque fois.
C'est tout ce suspense. Historiquement vôtre, c'est fini pour aujourd'hui. Ben, je ne peux pas vous quitter sans vous demander si vous-même, vous êtes déjà allé en Jamaïque, Stéphane.
Jamais. Ni en Jamaïque, ni en Éthiopie. Et j'avoue, mais j'adore Bob Marley depuis...
Voilà. Vous lui vouez une passion.
Ah, j'ai une passion, j'ai tout Bob Marley.
Vous avez tout Bob Marley? Vous avez déjà fumé un pétard ou pas?
Jamais de la vie. Jamais. Je vous ai déjà raconté cette anecdote, même quand j'étais à Canal+. Un jour, on m'a tendu un joint et je croyais que quelqu'un cherchait un cendrier. Je lui ai tendu le cendrier. Il écrase son mégot. Je ne savais pas. J'ai jamais fumé une cigarette en entier de ma vie.
Ça, c'est moi aussi. Mais le reste, non. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve demain, Stéphane, et que vous connaissez le programme.
Oui, il marche seul.
Oh, comme Jean-Jacques Goldman. Je marche seul. Envoyez.
Oui, si vous voulez, Mathieu, mais eux ont vraiment marché seuls. L'écolo avant l'heure, John Muir, qui a parcouru 1500 km à pied à travers l'Amérique profonde. Puis Robert Louis Stevenson, qui a marché seul ou presque avec un âne dans les Cévennes.
Et Jean-Jacques Goldman. Je
marche seul. Ah oui, ça on l'a compris, il marche seul.
Eh oui, alors à demain Stéphane, à demain les amis.
Ça marche, à demain Mathieu, à demain chers auditeurs.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.